Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
On vous l'avait promis, on passe complètement à autre chose. C'est-à-dire que ouais. Là, si vous en avez jusque-là de l'IA générative...
Petit sujet chill.
Eh bien, exactement. On change complètement de planète, j'allais dire.
De satellite.
Exactement.
Je dirais même.
C'est un sujet astronomique. Et c'est pas tous les jours sur cette émission. Vous le savez peut-être, nous allons retourner sur la Lune. C'est le programme Artemis de la NASA. Et derrière ce programme se cache un objectif, s'installer durablement sur la Lune et y créer une vraie base lunaire. On dirait de la science-fiction, mais le développement est vraiment actuellement à l'étude dans les bureaux de la NASA. Alors nous, en tant qu'ingénieurs, on s'est demandé comment respirer, boire, comment communiquer sur la Lune. Il y a plein de questions techniques très intéressantes. Comment fabriquer un habitat sans amener des ressources depuis la Terre? On vous a préparé un petit tour d'horizon des techniques et solutions pensées par la NSA, pensées par la NASA et tous ceux qui travaillent sur le sujet pour nous envoyer sur la Lune.
Et on va essayer de prendre un peu ces points un par un pour apporter un début de solution, parce que souvent, c'est des solutions qu'ils sont en train de développer, tout n'est pas encore prêt, loin de là. Mais on trouvait ça super intéressant de se dire, en fait, il y a vraiment des gens là, actuellement, qui travaillent à construire une base lunaire, et ça pourrait bien voir le jour, en tout cas c'est le but du programme Artemis.
Et ce que t'expliquais, c'est qu'il est un peu spécifique dans le sens où le but c'est pas juste d'emporter dans les valises des technologies toutes faites et de déballer la base lunaire qu'on aura construite sur Terre, c'est ça ?
Exactement, le but c'est d'arriver à faire toutes ces choses-là avec le maximum, le maximum de ce qu'on trouve sur la Lune. Alors non pas parce qu'on n'a pas... Enfin, il y a aussi des choses de « il ne faut pas polluer la Lune via la Terre », mais c'est aussi parce que, en fait, transporter une maison sur la Lune, c'est compliqué. Donc si on peut la fabriquer sur place, c'est beaucoup plus simple. Donc on va voir comment, en fait, toutes ces choses-là, ils la font grâce à des choses qu'ils trouvent directement sur la Lune. Et moi, c'est ce qui m'a le plus surpris quand je me suis un petit peu renseigné sur ce sujet. Mais juste avant, je vous propose de faire un petit point sur c'est quoi ce programme Artemis et pourquoi on retourne sur la Lune. Donc c'est un programme américain et dont le but est de retourner sur la Lune, mais surtout de retourner un peu plus durablement que ce qu'on l'a fait. Et donc ils envisagent même, il y a un article plus loin qui dit qu'ils voudraient rester jusqu'à un mois sur la Lune en 2030. Quelqu'un de la NASA disait c'est vraiment vivre et travailler sur la Lune. Donc il y a vraiment le but de rester un petit peu sur la Lune. Ce programme Artemis a été lancé j'ai oublié de mettre la date, mais il y a plusieurs années maintenant. Le premier jalon a été passé en 2022. C'est Artemis 1 qui a été lancé. Donc c'est le SLS de SpaceX qui a fait cette première mission. Et SpaceX qui est en charge du lanceur, le plus gros lanceur qu'on ait jamais créé. C'était le 16 novembre 2022 et c'était un lancement sans astronautes dedans. Donc Artemis 1 a fait son petit tour prévu, mais c'est le premier jalon qui a été passé avec succès. Tous les autres jalons sont encore à l'étude et en travail. Le deuxième, c'est Artemis 2, évidemment, qui sera en septembre 2025, et ça sera le premier lancement habité, mais ils ne se poseront pas sur la Lune. Il faudra attendre 2026 pour avoir le premier équipage de Artemis, donc Artemis 3, pour se poser sur la Lune. Ça sera deux astronautes, une femme et un homme, qui resteront sur la Lune pendant 6 jours et demi quand même, ce qui est beaucoup plus que ce qu'on fait les missions Apollo.
Mais 2026, c'est demain, quoi.
Des dizaines d'années. Et par contre, on rappelle, nous sommes en 2024. il y a eu des changements de calendrier. Il y a un moment, c'était prévu pour 2024. Là, c'est pour 2026, mais c'est vraiment dans 2 ans. Donc franchement... Quand j'ai réalisé ça, j'ai fait « Oh, ça approche vachement vite !» À voir s'il repousse ou pas. Et puis après, il y aura d'autres missions. Artemis 4, qui est prévu en 2027. Après, ils vont un petit peu enchaîner. Et ce que je disais, c'est que le but avant tout de ce programme, c'est l'exploration, mais l'exploration durable sur la Lune. Et autant on peut vivre sur le Starship, dans le Starship, donc le vaisseau de SpaceX, c'est ce que vont faire les astronautes d'Artemis 3, notamment. Mais ce n'est pas vraiment viable à long terme. Si on reprend cet objectif d'arriver à rester jusqu'à un mois sur la Lune, on peut pas vivre un mois dans le Starship. Il n'y a pas assez de confort. Et donc, il y a cette idée de créer une base un peu plus permanente sur la Lune. Tout ça, évidemment, avec l'objectif Mars en tête, dans un coin. C'est tout ce qu'on va apprendre pour parvenir à créer une base sur la Lune. Ben, on l'apprend aussi pour peut-être un jour aller sur Mars. En tout cas, c'est dans la tête de tous les ingénieurs qui travaillent sur ces projets. Et donc, installer une base sur la Lune, ça implique plein de choses. C'est notamment pour augmenter le confort des astronautes versus rester dans une fusée. Mais il y a un problème dans ce programme. Alors déjà, ils ont des petits problèmes de budget. Je crois que c'est financé jusqu'à Artemis 3. Mais le reste n'est pas forcément complètement financé, alors que ça devrait l'être à ce stade du projet, parce qu'il faudrait qu'ils lancent en développement des choses dont ils ont besoin pour plus tard.
Ok, ils sont en dèche de thunes en gros.
Ils sont un peu en dèche de thunes. De ce que j'ai compris, je ne sais pas l'aspect que j'ai le plus creusé, mais de ce que j'ai compris, ils sont un peu en dèche de thunes. Il y a un deuxième souci, c'est qu'ils ont des délais très courts. Tu l'as dit, 2026, c'est demain. Et donc, pour faire face à ces délais très courts, en fait, ils font appel à pas mal de sous-traitance. Et c'est en fait assez peu la NASA qui construit les choses elle-même, mais ils vont vraiment appeler plein de sous-traitants, ils vont faire des appels d'offres auxquels des entreprises répondent, et ils allouent des budgets à base de millions de dollars pour résoudre les points dont je vais vous parler maintenant. Le premier point, la première question que je me suis posée, c'est l'oxygène. Pour faire une base, il faut bien que puissent vivre et avoir de l'oxygène. Et comment on fait pour avoir de l'oxygène ? Alors, ça va servir à deux choses, c'est aux humains de vivre et à un potentiel futur habitat d'être alimenté en oxygène, mais aussi, il faut penser aux rovers, donc aux petits robots qui seront sur la Lune. Potentiellement, ils envisagent de faire des rovers pressurisés, donc avec de l'oxygène. Et en fait, j'ai appris qu'on peut faire de l'oxygène, on peut extraire de l'oxygène sur la Lune. C'est incroyable.
Ils n'emmènent pas tout dans des bonbonnes, en gros.
Exactement. Ben non, mais moi, je pensais, tu vois. J'y connais rien. Vraiment, j'y suis allé en néophyte. J'adore l'exploration spatiale, c'est une passion, mais je n'ai pas particulièrement creusé le sujet avant cette chronique. Enfin, auparavant, je veux dire. Et donc, en fait, il y a une méthode qui s'appelle le MRE, Molten Regolith Electrolysis. Donc, c'est de l'électrolyse de régolithe. Et donc, en fait, globalement, ils arrivent à extraire. Il y a une technique pour extraire de l'oxygène par électrolyse de la poussière de la Lune. Et donc, ils récoltent de la poussière, ils font en gros une réaction chimique. Et grâce à ça, ils sont capables d'extraire l'oxygène qu'il y a à l'intérieur des poussières de la Lune. Déjà, je trouve ça incroyable.
Il y a de l'oxygène dans la poussière.
Voilà. Mais eux, ils te le disent un peu en mode normal. Non, non, mais on le savait. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est de transporter l'oxygène. J'étais là en mode, pourquoi ils veulent transporter l'oxygène ? Mais en fait, si. Parce que bouger, par exemple, l'oxygène en bon mode via des rovers d'un endroit A à un endroit B, de ce que j'ai compris, en fait, ça prend beaucoup plus de ressources que parfois d'extraire l'oxygène lui-même. En fait, c'est pas une bonne solution. Et donc, ils se sont dit, il faut qu'on construise un pipeline pour transporter l'oxygène de l'endroit de production où on sera capable d'extraire l'oxygène à l'endroit de vie. Et donc, ils envisagent, et ils sont en train d'imaginer, un pipeline d'oxygène de 5 km fabriqué sur la Lune par des robots en aluminium. Je ne sais pas comment ils vont faire ça. C'est absolument incroyable. Mais en gros, ils veulent extruder de l'aluminium automatiquement par des robots et construire un pipeline de 5 km pour avoir une distribution de l'oxygène qui soit possible sur la Lune, parce qu'en fait...
C'est fou. Alors déjà, donc ils ont assez d'aluminium pour faire
Pense que l'aluminium... Voilà, pour le coup, j'avoue, j'ai pas creusé trop le pipeline, mais je pense qu'ils vont le ramener depuis la Terre, l'aluminium.
Mais 5 bornes, c'est quand même long, quoi.
Mais 5 bornes, c'est quand même long. Mais non, mais clairement, et ben, une question de plus. Comment ils vont faire les 5 bornes d'aluminium d'oxygène ? En tout cas, le projet est complètement à l'étude, et en fait, leur but, c'est d'avoir 2 kg d'oxygène par heure, et donc 10 kg d'oxygène transporté par an. Et ils ont fait les calculs. C'est comme ça qu'ils pourront avoir un habitat permanent sur la Lune en transportant, en étant capable de transporter du lieu de production au lieu de vie 10 000 kg d'oxygène par an. Ça, c'est pour l'oxygène. Et déjà, j'étais refait. Mais franchement, c'est pas du tout le plus impressionnant. Forcément, je vous le garde un petit peu pour la fin.
Salut, si vous appréciez Underscore, vous pouvez nous aider de ouf en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast, en mettant une idée d'invité que vous aimeriez qu'on reçoive. Ça permet de faire remonter Underscore, voilà, telle une fusée.
Le deuxième, il va être très très simple. Comment ils font pour avoir de l'électricité? Peut-être que vous avez des idées.
Ça va être des panneaux solaires souvent dans l'espace, non?
Ouais, et bah, c'est exactement ça qu'ils vont faire. Sauf que là, ils travaillent sur des panneaux solaires de 18 mètres de haut. Donc c'est des sacrés panneaux solaires qui peuvent dérouler au fur et à mesure, donc un peu comme s'ils pouvaient le ranger, j'imagine. Et c'est une société qui s'appelle Vertical Solar Array Technology, donc VSAT, qui a remporté un petit peu le budget alloué par la NASA Non, ça c'est le projet. J'ai dit le nom du projet. Le nom de l'entreprise, c'est Astrobotic, qui a gagné qui a obtenu un financement de 6,2 millions. Et ils sont en train d'essayer de fabriquer ces fameux panneaux solaires de 18 mètres de long.
J'ai une question, je ne sais pas si tu as l'info, mais est-ce que tu sais si parce que la gravité est différente, sur la Lune, on peut se permettre de faire des inventions qu'on ne pourra pas forcément appliquer sur Terre? Parce qu'on a des différences sur le système. Par exemple, la gravité n'est pas du tout la même sur la Lune. Du coup, est-ce que des panneaux verticales sur Terre, ça ne marcherait pas parce que ce serait beaucoup trop lourd pour que ça se tienne sur soi-même? Je ne sais pas si tu as une info
Est-ce que
les inventions vont beaucoup changer?
Je ne suis pas sûr que sur les panneaux solaires, ça fonctionne, mais ça doit fonctionner sur d'autres choses. Honnêtement, je n'ai pas la réponse. Mais
À creuser.
J'ai vu un ligne de tuyau pour pipeline.
Non,
pas déconner.
Si, en vrai, c'est très drôle. C'est très drôle. Attends, il n'y a pas une autre traduction en français? Non, bon, je sais pas. C'était le deuxième point. Je vous propose de passer au troisième point, les communications. Alors ça, c'est peut-être le plus simple. Mais en fait, c'est tout simplement une entreprise qui s'appelle Creation Space, qui est une filiale de Lockheed Martin, qui va s'occuper de mettre tout un tas de satellites en orbite autour de la Lune et qui va assurer en même temps les communications et en même temps le GPS.
Et en fait, ils doivent refaire un maillage comme nous, on a, quoi.
Ouais, alors je pense qu'ils vont faire quand même un maillage un peu moins vénère que ce qu'on a sur Terre. Surtout qu'en fait, ils vont choisir des endroits bien spécifiques et donc ils vont pouvoir orienter un peu les satellites. Mais il faut quand même qu'ils en aient plusieurs en orbite. Et c'est vrai qu'on n'y pense pas parce qu'on se dit, en vrai, on arrive à communiquer avec des gens sur la Lune, sauf qu'en fait, c'est extrêmement restreint, c'est dans des plages bien précises. Et donc, en fait, ils vont devoir envoyer plusieurs satellites en orbite autour de la Lune. C'est bête, mais en fait, il faut y penser, quoi. je me dis, ça fait tellement de choses à penser.
Il faut tout repenser
et de repartir à zéro. Donc ça, pareil, un peu comme l'électricité, solution plutôt assez simple, en tout cas, qui est en développement du côté de Creation Space. La quatrième, il me semble, et ça sera l'avant-dernière, c'est l'eau. Alors là, on a un lancement de fusée. Alors moi, c'est toujours des images qui m'hypnotisent. Donc là, si tu me mets ça, je ne vais plus parler. Non, mais t'inquiète. L'avant-dernière, c'est l'eau. Comment ils font pour juste boire? Voire peut-être même se doucher, mais ça, on va y aller mollo.
Bon, la poussière, pas deux fois.
C'est vrai qu'un mois sans douche, quand même, ça fait long.
Eh bien, j'ai appris quelque chose. Alors, évidemment, les passionnés, vous le savez tous déjà. J'ai appris que il y a de l'eau en présence abondante sur la Lune. Okay. En fait, alors pas partout, mais il y a beaucoup d'eau au pôle sud, au pôle sud lunaire. Donc forcément, c'est là qu'ils vont s'installer parce qu'il y a de l'eau. Mais je ne savais pas. En fait, la Lune regorge d'eau. Sauf que il y a un petit souci à ça. Dans cette eau, il y a du mercure, du calcium et du magnésium. Et ça, c'est pas tip top. Pour le corps humain, pour l'organisme. Et donc du coup, en fait, il y a deux agences spatiales. Donc il y a l'agence spatiale canadienne et l'agence spatiale anglaise qui ont lancé un défi, mais il n'y a pas très longtemps, là, c'était en janvier, qui s'appelle Aqualunar, et qui en fait demande aux participants de ce défi des solutions pour purifier cette eau, des solutions pour en fait filtrer, trouver des systèmes qui permettent de filtrer cette eau pour qu'elle devienne complètement potable pour l'organisme. Parce qu'en fait, l'eau n'a jamais, pour l'instant, été purifiée sur place. Et le but, c'est d'arrêter de se trimballer avec des kilos et des kilos de flotte. Et en fait, ils sont très... pourquoi ils ont lancé ce défi? Parce que ça pourrait servir pour la Lune. Mais en fait, ça pourrait... C'est des techniques de filtration, si on arrive à trouver des systèmes super ingénieux, qui pourraient servir dans des endroits reculés de la Terre aussi. Donc en fait, toutes ces recherches, parfois, servent uniquement pour la Lune. Mais là, dans ce cas précis, ça pourrait intéresser bien d'autres gens que juste le projet Artemis, parvenir à faire de la filtration de l'eau de façon très efficace. Et enfin, le dernier, c'est mon petit préféré, comment construire, alors j'avais dit une maison, mais en fait, une base sur la Lune. Et en fait, il y a à l'étude deux solutions. La première, elle est marrante. C'est une solution de Lockheed Martin. Ils essayent de développer des concepts d'habitat gonflable.
Okay.
Et donc, l'idée, c'est que c'est tout petit à transporter quand tu la mets dans la fusée, mais qu'une fois gonflé, en fait, tu as un super grand volume et tu peux vivre, travailler.
C'est un château de fête foraine, en fait.
C'est vraiment.
Une tente lunaire, genre, tu sais, c'est les trucs Keshua que tu t'envoies comme ça.
Oh, la tente deux secondes. Ouais, oh, faut qu'on les mette en relation avec Décathlon. Ça me paraît évident. Bon, ça, c'est la première. C'est sérieusement à l'étude. Mais ce qui est encore plus sérieusement à l'étude, en tout cas moi ce que je trouve encore plus stylé, c'est de l'impression 3D.
Ah oui.
Parce que oui, on peut construire une maison en impression 3D. D'ailleurs, ça a déjà été fait sur Terre.
En Chine, non, ça se fait.
Alors ça, c'était aux États-Unis.
Okay.
C'est la société Icon qui a remporté l'appel d'offres de la NASA pour développer des habitats imprimés en 3D sur Mars. Et donc ça... Donc voilà, c'est un peu comme, bah comme vous voyez, hein, c'est du ciment, mais coulé en 3D, quoi.
Tellement hypnotisant.
Alors, c'est incroyable.
Mais ça, c'est les vidéos où ils vont mettre underscore, tu vois, et en bas, il y aura ça.
Vidéo satisfaisante.
Ah, mais oui, c'est vrai.
Ouais.
C'est non, mais moi, j'avais déjà vu des démonstrations sur des toutes petites habitations. Où il y
ah
avait
ouais,
un,
non.
Surtout, c'était des habitations circulaires où il y avait un bras, en fait.
Ouais.
Et du coup, qui venait poser des murs pour faire une sorte de mini-maison d'habitat bah là, très peu cher. Et là, l'échelle est impressionnante.
Là, t'as vraiment comme une imprimante 3D que t'as dans ton atelier, mais en version super grande pour pouvoir imprimer avec des poteaux et tout. Enfin,
en termes de matériaux, est-ce qu'on sait comment
alors,
ce qu'ils vont prendre ouais.
Ben, là, c'est des matériaux classiques terriens pour faire la maison. Chose intéressante, c'est eux qui aussi, exactement, construisent une base, une simulation d'habitat pour Mars. Alors ça, c'est aux États-Unis, c'est à Houston, mais c'est eux qui ont la charge de voir comment on pourrait construire une base martienne.
Mais attends,
sauf que pour l'instant, ils la font sur Terre.
C'est trop stylé, le loft. Le truc, c'est mieux que ce qu'on a ici.
Est-ce que t'as pas envie d'y habiter?
C'est un peu loin.
Et donc,
j'avoue.
Il faut une réplique grandeur nature d'une potentielle future base martienne.
Pour essayer, parce qu'ils font plein de tests pour Mars de mettre des gens dans le même lieu,
voir si on se
tape dessus. Ouais. Et tout. il y a eu plusieurs choses comme ça. Je sais qu'il y a eu des expériences en Russie aussi, vers Baïkonour, etc. Mais voilà, donc c'est cette société qui, du coup, s'y connaît un peu. Et en fait, ils ont gagné le projet qui s'appelle le projet Olympus. Et comme tu le disais, il est encore plus intéressant. Pourquoi il est plus intéressant? Parce que déjà, évidemment, ils veulent automatiser l'impression 3D via des robots, mais ça, c'est déjà fait. Mais surtout, qu'est-ce qu'ils vont utiliser pour faire les petites maisons sur la Lune? Du régolithe lunaire, donc ce qu'on appelle, c'est de la poussière lunaire, en fait. Et en fait, ils veulent créer du ciment à partir de la poussière de la Lune. Enfin, du ciment, du matériau de construction à partir de la poussière sur la Lune. Et ce que je trouve incroyable, c'est que pour faire ça, ils travaillent avec oh mince, j'ai le mot anglais qui vient. Sample.
Des
échantillons.
Merci. Et pour faire ça, je recommence. Et pour faire ça, ils travaillent avec des échantillons ramenés de la Lune des missions Apollo. Et donc, c'est-à-dire pas énorme, quoi. Mais ils préparent tout ça sur Terre pour essayer de trouver le matériau qui permettra de construire une maison en 3D sur la Lune via de la poussière lunaire.
50 ans plus tard, on sait à quoi ça sert. C'est...
Non, mais c'est un peu ça. Alors, il n'y aura pas que de la poussière sur la Lune. Ils savent déjà que ça sera mixé avec une résine, notamment parce qu'il faut qu'ils puissent se protéger des UV. Et pour, parce que quand tu es sur la Lune, si tu n'as pas de scaphandre, bah, tu es exposé, exposé aux UV de manière trop forte pour l'humain. Et donc, ils vont mixer cette poussière lunaire, donc ce régolithe, avec de la résine, pour le coup, qui viendra de Terre, pour pouvoir arriver à imprimer en 3D, avec quand même une grande partie du matériau qui vient de la Lune, de l'habitat sur la Lune. Et chose incroyable, la première démo de ce projet Olympus est prévu pour est prévu pour 2026.
Ah ouais. Ah ouais, ouais.
Okay, okay, et pareil,
c'est demain.
Ouais. Ouais, c'est genre, j'ai trop envie de savoir ce qu'ils parviennent à faire.
Surtout là, techniquement, ils ont en termes de problématiques, ils doivent faire de l'étanche. Donc c'est quand même carrément plus.
De l'étanche, ils doivent faire plein de choses. Parce que, par exemple, c'est eux aussi qui travaillent sur construire des routes et un atterrisseur pour les fusées. Alors, on pourrait se dire, bah, pourquoi on n'a pas besoin de route? Mais en fait, dès qu'une fusée atterrit, ça fout de la poussière, du régolithe partout. Et en fait, c'est chiant.
Parce que du coup, tu pourrais te faire ensevelir ta base lunaire.
Voilà, si tu atterris trop à côté de ta base lunaire, c'est...
Ouais. Mais comme on voit dans Soul sur Mars, d'ailleurs.
Exactement, on peut plus penser à ça. Ouais. Mais j'imagine qu'ils ont un nombre de contraintes... incroyable, que je n'ose même pas imaginer. Mais je trouve ça trop bien de me dire qu'il y a des gens qui travaillent sur de l'impression 3D avec de la poussière lunaire pour construire des bases sur la Lune.
Et surtout, en termes de contraintes, déjà sur Terre, c'est compliqué à faire comme ça, mais ils ne sont même pas sur la Lune. C'est-à-dire qu'ils sont obligés de faire tous les calculs, toutes les simulations,
ouais,
pour se dire ce que nous, on est en train de tester ici, bah on va l'envoyer dans l'espace et ça va marcher.
Ouais.
Je trouve ça oufissime.
Ouais, des calculs de résistance, des trucs comme ça, tout doit être complètement faussé par les...
Ouais, et puis j'imagine que les échantillons qu'ils ont, ils n'ont pas non plus des tonnes de poussière lunaire. Donc, franchement, très stylé ce que fait cette société qui s'appelle Icon. Ça donne envie de suivre un peu ce qu'ils font. Voilà.
Grave cool.
Je pourrais pas rentrer dans le détail des rovers, mais c'est pas si passionnant. Mais je voulais par contre remercier la chaîne YouTube qui m'a aidé à faire cette vidéo qui s'appelle The Space Race. Franchement, ils sont trop bien documentés. Donc.
Et en français, ça fait comment?
La course à l'espace. Voilà, j'espère que ça vous a donné un... Pardon?
Les noms propres, il y a le droit.
Mais j'espère que ça vous a donné un petit aperçu pour potentiellement vous donner envie de creuser encore plus. Moi, en tout cas, ça m'a donné envie de creuser encore plus, de parvenir à répondre à tes questions.
Allez voir la chaîne de Space Race.
Franchement, j'ai trouvé des bons trucs. Et la NASA, le site de la NASA aussi, il documente plutôt bien tout ça. Il y a des choses, si vous êtes curieux, allez sur le site de la NASA. Franchement,
c'est trop bien.
Enfin, sur le site de la NASA, sur le programme Artemis, du coup.
Trop cool. Eh ben merci Mathieu pour cette petite
De rien.
Cette petite incursion en terre inconnue,
en terre lunaire.
Et voilà. Mais peut-être en vrai pour une prochaine fois on pourrait recevoir je sais qu'il y a quand même un sacré YouTube game de l'espace.
Ouais.
Alors si on faisait si ça vous intéresse, si ces sujets vous intéressent, que vous voudriez un focus peut-être un peu plus technique sur ces sujets-là, on se fera un plaisir de les inviter.
Là c'était un test. Petit truc simple, mais on peut inviter des gens, on peut creuser beaucoup plus de certains sujets.
Carrément.
Et on peut inviter Thomas Pesquet.
Bah voilà. Facile, hein. Un coup de téléphone et hop il est là.
Ça part.
Le journal de l'espace ou Hugo Lisoire. Bah oui.
Bah, Hugo Lisoire, référence.
La ref. Potentiellement, avec grand plaisir. Et puis, on arrive à la fin de cette émission. J'espère que moi, je suis explosé. Alors pourtant, j'ai pas fait grand-chose, j'étais dans l'audience. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à aller suivre Ronny sur Twitter.
Twitter, ouais.
0xLupin.
0xLupin, ouais. El Famoso. Mathieu Lambda. Et enfin, il n'y en a qu'un seul, mais vous avez compris. Et n'hésitez pas à suivre cette chaîne Twitch. On revient dans 2 semaines, mercredi à 19h. Et vous pouvez entre-temps vous abonner à la chaîne YouTube si vous avez raté ces 3 magnifiques parties. Elles seront publiées dans les semaines qui suivent sur la chaîne YouTube. Et puis sur ce, nous on va aller manger des pizzas et boire de la sauce piquante peut-être.
Oh non, j'avais oublié ça.
Et on vous fait tous des gros bisous et on espère que vous avez passé un excellent moment en notre compagnie. Bye bye, bonne soirée.
Salut à toutes.